Cours de philosophie de éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 5 octobre 2001 à Saint-Judard.
L'éthique, c'est la philosophie pratique. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est la partie de philosophie qui, avec le facere, le fait de réaliser quelque chose. Alors le facere est tout de suite concret. L'artiste n'est artiste que quand il fait quelque chose. Un artiste qui dirait « je suis un artiste » parce que j'ai des idées merveilleuses sur le théâtre, sur la musique, et qui ne ferait rien, qui réaliserait rien, n'est pas un artiste. L'artiste, c'est celui qui fait. C'est pour ça que le travail, toute la philosophie du travail, il ne faut jamais l'oublier, dépend du facere. Et le travail a évolué beaucoup depuis Aristote. Le travail comme tel. Et le travail premier, si on veut comprendre philosophiquement ce qu'est le travail, c'est toujours dans la philosophie du facere. Parce que celui qui fait quelque chose, c'est celui qui coopère avec la matière, avec le bois, avec le fer, avec le verre, qui coopère. Agir, l'agire, agir, c'est plus intérieur. L'agir moral, puisque la morale commence à naître avec l'agir, pas avec le facere. C'est pour ça qu'on aime beaucoup de facere, parce qu'il n'y a pas la morale. Mais très vite, le facere est lié dans la réalisation à la durée. Et je travaille tant d'heures par jour. Ah, déjà, mesurer le travail dans la vie humaine, travailler tant d'heures, ça c'est le facere, c'est la durée. Je me réserve dans ma journée des moments où je prie, la prière. C'est pas le facere. Je ne fais pas Dieu. Je ne fais que des idoles. Ce qui met le facere au-dessus de tout, il fait des idoles. La prière, c'est la durée. Prier Dieu. Dieu, vous n'avez pas de contact avec Dieu par le facere. Parce que Dieu, vous ne le faites pas. Hein ? Vous faites des idoles, mais pas Dieu. Et tout de suite, voyez là la limite du facere. Et celui qui se consacre uniquement au facere, ça, c'est une grave question. Est-ce qu'on peut consacrer sa vie uniquement au facere ? C'est un point d'interrogation. Je ne le traite pas, ça. Mais il faut le traiter. Et c'est vous à le traiter. Est-ce que ma vie peut se finaliser par le travail, autrement dit, par la réalisation de quelque chose de concret ? Non. Tandis que la durée peut finaliser ma vie. c'est tout de suite la supérieure, la supériorité par rapport à l'homme de l'Algérie sur le Fâcheret. C'est que je peux finaliser ma vie. Alors, ce sera la contemplation qui, elle, sera au-dessus. Mais avant la contemplation, il y a l'adoration. L'adoration, c'est de la durée. C'est une activité humaine, une opération humaine, morale. Donc, nous avions dit, et c'est quand même très important, de toujours se rappeler ça, que le Fâcheré est premier dans ma vie humaine. C'est pour ça que la philosophie doit toujours commencer par le Fâcheré. Une philosophie réaliste. Elle ne commence pas par la contemplation. Évidemment, la contemplation prend vite le pas sur le point de vue du Fâcheré. Mais la vie humaine commence par le Fâcheré. Vous éduquez, et il faut toujours se rappeler ça, vous éduquez par le Fâcheré. Et on a beaucoup trop moralisé, et on a cru que éduquer, c'était uniquement le point de vue moral. Les moralistes, c'est ça. On éduque d'abord un être par le Fâcheré. C'est pour ça qu'on met les ateliers. Vous éduquez d'abord par le Fâcheré. C'est utile. On n'entre pas au berceau, au noviciat. Hein. Donc on a déjà beaucoup travaillé. On a déjà essayé de comprendre ce que c'est que la morale. Mais le Fâcheré reste toujours premier. C'est pour ça que quand les gens sont fatigués de la tête, fatigués quant au cœur, parce que rien ne se réalise de ce qu'ils voudraient qu'ils réalisent, le seul moyen de se reposer, c'est le Fâcheré. Pour ne pas perdre la tête, pour ne pas perdre le cœur, c'est revenir au Fâcheré. Le Fâcheré, c'est toujours, on se renouvelle par là. Alors, on n'est pas à cause de ça un grand artiste. Hein. Faire la cuisine, c'est du Fâcheré. Faire la cuisine, c'est bien évident. Mais le point de vue moral est très important, puisque vous faites la cuisine en tant que religieux. Ah oui. Donc vous obéissez au Père Maître qui vous dit de faire la cuisine. Mais il y a ce point de vue-là. Et pour dire, c'est très bien de la faire. C'est du Fâcheré. J'ai besoin de reposer. Ma tête a besoin de se reposer. Autrement, elle se repose par la logique. Oh, c'est très curieux, ça. Les gens qui sont fatigués et qui font de la théologie se mettent à se reposer en faisant de la logique. Parce que la logique, c'est un art. Donc c'est du Fâcheré. C'est le Fâcheré qui intervient dans le point de vue spéculatif. La logique, c'est un art. Donc, ça doit me permettre de retrouver le sens de la matière. Quel est le sens de la matière en logique? C'est mes raisonnements. Alors, l'Algérie commence par un aspect intérieur. Il commence par une intention de vie. Et ceci, pas toujours en moi, mais vis-à-vis de celui qui m'éduque. Au point de départ, la mère. C'est le rôle de la mère d'éduquer. Première éducation. Tu dois manger à telle heure. L'éducation commence par là. Hein. Manger, ce n'est pas moral. C'est du fatuéré de manger. C'est le répondant de la cuisine. Si personne ne mangeait, pas besoin de cuisine. C'est vrai, manger. Quand vous mangez, c'est du fatuéré. Mais la manière de manger, l'intention qui vous fait que vous mangez, ah ça, c'est l'éducation. La première éducation, elle se fait au niveau de se fatuéré manger. Et si vous mangez comme un glouton, ou comme un chat, ou comme un chien, ça arrive. Hein. Les enfants qui ont été emportés par des louves, au bout d'un certain temps, assez rapidement, manger comme des loups. Vous avez vu des loups manger. Et quand ils mangent de la soupe, ils mangent de la soupe. Là-bas, là. Et on vous a appris à manger correctement. On ne mange pas comme ça, soit un peu plus propre. Autrement, vous auriez mangé comme un loup, comme un chien, comme un chat. Parce qu'eux mangent selon l'animal qui est en eux. Et nous, il y a un animal en nous qu'on éduque. Le petit animal, on l'éduque. Et l'éducation, c'est l'aspect moral qui intervient. Vous n'éduquez pas seulement au niveau artistique. Vous éduquez au point de vue moral. Le point de vue moral a pénétré chez nous par l'éducateur. Il faut offrir ses intentions. Alors, quand cette éducation se fait chez les chrétiens, on offre tout à Dieu. Et ça, c'est chrétien. Donc, nous avons tous commencé notre vie par, du moins, en général, pas tous, en général, nous avons commencé notre vie chrétiennement, dans un pays qui est chrétien. Mais dans un pays qui n'est pas chrétien, on commence à éduquer, à faire comprendre le point de vue moral, c'est le point de vue de la famille. On a commencé en famille, en petit groupe, à manger proprement. Et la propreté, acquérir la propreté, en mangeant, c'est moral et artistique. Les deux sont très, très liés, parce que l'éducation, c'est un art d'éduquer. Et on éduque au point de vue moral. Vous pouvez éduquer au point de vue artistique, c'est sûr, mais l'éducation comme telle est moralisante, et pour le moral. Et la morale s'acquiert dans cette coopération. Vos premiers actes moraux, ont été d'obéir. C'est curieux. L'obéissance à quelqu'un, obéir à un maître, obéir à une maîtresse, obéir aux parents. C'est par là que la morale a pénétré en nous. Donc, c'est très bien de voir l'aspect philosophique de différence des deux, mais c'est intéressant de voir concrètement comment nous avons commencé à acquérir le sens moral par l'obéissance. Et très souvent, comme l'obéissance n'était pas agréable, c'est vrai, c'est pas drôle d'obéir, hein. On aime mieux pouvoir faire ce qu'on veut. Oui, la formule du reste est très nette, on fait ce qu'on veut. Tandis que quand on obéit, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors que quand on obéit, on devrait faire ce qu'on veut. Parce qu'on veut obéir. Et on oppose très vite la pensée dialectique. Et par le fait même, la morale est apparue comme un été noir. Et très souvent, la morale est comme un été noir. Ça vous empêche de gambader. L'enfant, quand il assiste à la messe, « Ah, tais-toi, tiens, bien. » Circule pas. Donc, bon, assister à la messe, pour le gosse, qu'est-ce que c'est? C'est un temps, ah, il faut bien se tenir. Il faut arrêter de courir à droite ou à gauche. Il ne faut pas oublier ça. Les premiers gestes, c'est très important. Les premiers gestes, c'est très important. Et c'est difficile de faire autrement. Hein. Si la mère va à la messe, qu'elle va avec son gosse, et que le gosse se met à parler parce que le chapeau de la voisine est assez gros. Sa mère lui dit, tais-toi, il s'y restait. Alors, tout de suite, aller à l'église, c'est se taire. Donc c'est pas agréable. L'obéissance, c'est très curieux. On a essayé de supprimer ça. Il y a des méthodes, vous savez bien, d'éducation qui consistent à laisser l'enfant libre, faire ce qu'il veut. Ah, il veut dessiner, qu'il dessine. Il veut parler, qu'il parle. Et la liberté dans notre activité, la liberté qualifie nos opérations. Mais on ne fait pas un acte libre pour un acte libre. On fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire. On a envie de le faire. Avoir envie de faire quelque chose, c'est le premier moment de la finalité. On a envie de faire quelque chose. Et c'est la finalité. Tu feras ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est une finalité à court terme. On a envie de faire ça. Donc, il faut bien voir que l'aspect art et l'aspect moral, au début, sont très liés. Et que on a commencé à comprendre ce qu'est la morale, toujours, presque toujours, grâce à quelqu'un qui nous a dit de faire ça. La morale, pour nous, est très liée à l'obéissance. C'est pour ça que quand il y a une crise de morale, comme maintenant, il y a une crise d'obéissance. On n'obéit plus. et on n'acquiert plus le sens moral. L'origine du point de vue de la morale est liée à l'obéissance, je crois bien. Une obéissance peut-être très matérielle, mais une obéissance. On n'a pas inventé ce qui est bon, ce qui est mauvais. On n'a pas découvert par soi-même. Si on a été éduqué avec quelqu'un de très intelligent, on a été éduqué à faire la différence entre une action bonne et une action mauvaise. Première distinction. Ah, tu ne feras pas ça. Et là, je vous rejoignais l'écriture. Hein. Si vous regardez l'origine de la morale, c'est, premièrement, tu ne mangeras pas du fruit, de l'arbre, du bien et du mal. C'est lié à un commandement négatif. Et je crois que très souvent, le sens moral est parti de là. Ce qui montre que le sens moral, chez la plupart des êtres, est lié à la défense. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Alors, tout de suite, le sens de l'obligation. Tu dois. L'impérium de Kant. Tu dois faire ça. Alors que la morale, au sens profond, philosophique, commence par la finalité. Vous voyez, c'est que la morale, c'est faire ce qui est bon pour nous. Faire ce qui est bon pour nous. Éviter ce qui est mauvais. Ne pas le faire. Donc, très vite, la morale va naître dans cette éducation de faire le bien, éviter le mal. Très vite. Quand vous êtes dans un milieu moralisant, où la morale prend tout, alors le point de vue de l'obligation s'impose très fort. On était élevé dans un milieu très moralisant. Et on a été élevé par le fait même, par un sens très aigu, il faut faire ceci, il faut éviter cela. Et c'est vrai que c'est comme ça que naît le sens moral, faire le bien. Et c'est très rare qu'on le découvre par soi-même. Parce que la fin, elle est au terme. Et on ne voit pas toujours immédiatement ce qui est bon pour soi, ce qui est mauvais pour nous. Vous voyez, un des problèmes importants de notre monde d'aujourd'hui, c'est de voir quel est le fondement de la morale. C'était Ricoeur qui cherche très fort le sens de la morale. Quel est le fondement de la morale? Alors, très souvent, on a dit, c'est découvrir ce qui est bon pour nous, conforme à notre nature. Alors, on fondait la morale sur le point de vue de la nature. Nous avons une nature humaine. Le petit enfant a une nature humaine. Et par rapport à cette nature humaine, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. C'est pas lui qui dit ça. C'est sa maman. C'est son père. C'est celui qui l'éduque. Dans la nature humaine, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Donc, la morale se fonde sur la nature. C'est juste, il y a une partie vraie là-dedans. C'est très vrai. Et morale, tout ce qui est dans le sens du développement authentique de ma nature humaine. Parce que c'est la grosse question. Il faut bien agir, mais ça se fonde sur quoi? Qu'est-ce qui me permet de bien agir? De faire que ce que je fais est conforme à la loi, mais la loi, je ne la connais pas, est conforme à nature. Ou au contraire, est contraire à ma nature. Oui, le bien et le mal. Sur quoi se fonde la question du bien et du mal? Parce que le point de vue moral dans l'éducation, c'est tout de suite le bien et le mal. Éviter le mal, faire le bien. Est-ce que c'est inscrit dans ma nature humaine? Faire le bien, faire le mal. Oui, je pose ça comme question. Parce que la première catégorie de la morale, c'est le bien et le mal. Tandis que pour l'art, ce n'est pas le bien et le mal. Pour l'art, c'est de réaliser quelque chose qui a une signification. La finalité n'intervient pas tout de suite pour l'activité du facere, tandis qu'elle intervient tout de suite lorsqu'il s'agit de la gérer. Faire ce qui est conforme à notre nature. C'est le bien. Éviter ce qui est contraire à notre nature. Je dis ça maintenant pour ça, hein, au début. On va voir si c'est vrai. Si je puis maintenir ça. Ce serait par rapport à la nature humaine, n'est-ce pas? Ce qui est bon, ce qui est mauvais pour la nature humaine. Dans l'éducation ordinaire, la plupart du temps, on revient à cela. Ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme. Et pour pouvoir dire ça, il faut avoir découvert ce qui est conforme à ma finalité. Tout ce qui est conforme à ma finalité est bon. Ce qui n'est pas conforme à ma finalité est mauvais. Mais ma finalité, je ne découvre pas tout de suite comme ça. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un tuteur. J'ai besoin de quelqu'un qui a découvert sa finalité. Et celui qui éduque, celui qui peut éduquer, c'est celui qui a découvert sa finalité. Il y a tellement peu d'éducateurs qui ont découvert leur finalité. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qui est moralement bon, ut in pluribus, pour la plupart des personnes. Il n'a pas fait du tout le partage entre le bon et le mauvais. Ils l'ont simplement accepté. Ceci est conforme, celui ne l'est pas. Et il y a là un problème extrêmement important sur quoi se fonde le discernement entre ce qui est bon et ça devient une question brûlante quand, de fait, le sens moral disparaît. Comme aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où le sens moral est très beau. Il faut redécouvrir soi-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, on le reverra au terme, ça. Je vous pose la question maintenant. Parce que la vie morale commence par l'éducation. Ça, c'est sûr. Quand il n'y a plus d'éducation, la morale est... plus d'éducation familiale, éducation à l'école, il y a les deux. Quand il n'y a plus l'école, c'est très difficile. Et c'est capital pour moi de savoir ça. Alors que ça n'existe pas dans le point de vue du travail. Je ne me pose pas toujours la question quand je travaille, est-ce bon, est-ce mauvais ? Je travaille. J'accomplis ce qu'on m'a demandé. Là aussi, il y a le maître du début. L'homme a besoin, tant pour le fait gérer que pour la durée, de quelqu'un qui, au début, soit un maître. Donc, on retrouve l'obéissance comme quelque chose de tout à fait capital pour coopérer tant du côté de l'agir que du côté du faturer. Il faut l'obéissance. Et l'être humain est essentiellement un être lié à un autre. Et qui s'épanouit dans la mesure où il a quelqu'un qui le prend en charge et qui le permet d'agir. Il y a cette petite expérience que j'ai faite parce que ça m'intéressait beaucoup avec les kibbutz en Israël. Les kibbutz en Israël, les kibbutz religieux en Israël. Je ne sais pas actuellement comment ils font, mais je parle du début. Parce que j'ai pu voir ça, parce que j'allais régulièrement à Jérusalem pour y prêcher. Et donc j'ai vu tout à fait le début, et ça m'a intéressé. J'ai fait la visite de ces kibbutz pour voir comment on éduquait selon le sens que Israël pouvait avoir pour être un État. Et il comprenait que l'éducation était très importante. Et dans les kibbutz religieux, l'éducation était très importante. On a retiré l'enfant aux familles au début. Et il y avait des infirmières qualifiées pour la première éducation. Et on donnait l'enfant 2 heures par jour à la mère, pas plus. Jamais le soir, jamais la nuit. Les enfants étaient tous pris et avaient une éducation commune. Il fallait élever l'enfant communisme intégral. Et très vite, on s'est aperçu côté des éducateurs, ceux qui inspectaient tout ça, que l'enfant éduqué de cette manière-là était en retard. Or, comme Israël a très fort le sens de l'intelligence, c'était capital que l'enfant ne soit pas en retard. C'est très curieux et c'est très intéressant parce que on voit que l'éducation maternelle, si elle est moins qualifiée, qualitative, que l'éducation des gens qui font ça par métier et qui suivent toutes les règles de l'art, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, parce que c'était vraiment par mode d'expérience. On retirait l'enfant à sa mère, au foyer, dès le début. Tous les jours, l'enfant revenait au foyer, mais des heures, 2 heures, pas plus. 2 heures, je crois bien que c'est 2 heures. Au bout de 10 ans, donc, je suis revenu pour faire, pour voir comment ça se passait. Bon, j'ai vu que ça changeait. Alors, j'ai demandé pourquoi. Alors, on m'a dit, l'enfant prend du retard dans son éducation, si on le retire de la mère. Alors comme ils sont intelligents et qu'ils réfléchissent beaucoup en Israël, ils ont laissé l'enfant à la mère. Et ils le reprennent à partir de 14 ans. La puberté. Parce que ils ont vu qu'il y avait des tensions familiales à partir de 14 ans, 15 ans, entre le petit garçon et son père, la petite fille et sa mère. Il faut éviter cette tension-là. Alors, ils ont repris. C'était très intéressant. Quand j'ai vu ça, c'était un Espagnol qui me faisait visiter le kibbutz, la seconde fois. Il n'a pas parlé des premières éducations. Et au terme, on avait le droit de poser les questions. Mais il n'a pas parlé. Alors je lui dis, comment éduquons les petits-enfants? Comment se fait l'éducation? Alors il a souri. Et puis il m'a dit, ah, oh, bonne question. On a fait ça au début. Maintenant, on fait l'inverse. Ben, ça m'intéressait beaucoup de voir qu'au fond, ils avaient rectifié le tir en fonction qu'on empêchait l'enfant de se développer plus, que l'éducation maternelle ne pouvait pas être remplacée. Ça n'a pas été remplacé quand il y avait des nécessités, mais la remplacer par quelqu'un d'autre, c'était très mauvais. Et ça faisait que l'enfant nécessairement perdait du temps. Et quand on perd du temps au début, ça ne se rattrape pas. Hein. Du moins, ordinairement, ça se rattrape quelquefois. De sorte qu'on avait remis l'enfant à la mère, à la famille, pour la première éducation. C'est très important à voir parce que ça montre que l'affection, l'amour est capital pour le développement de l'intelligence. Et que le développement de l'intelligence ne peut se faire que s'il y a un amour qui pousse en même temps et même devant. L'amour est premier. Dans toute éducation, l'amour est premier. Ça, retenez bien ça parce que c'est très important et c'est quelque chose qui a été vérifié, qui a été, je dirais, réalisé avec toute attention possible. Il y avait une grande intention en Israël au début. Éduquer, il voulait être un peu le modèle. Comme il s'était intelligent, il voulait être le modèle. Et le résultat était négatif. Supprimer la première éducation du père et de la mère, c'est supprimer un climat d'amour naturel et vouloir le remplacer artificiellement par des éducateurs ou des éducatrices qualifiées. Alors ça, moi, j'ai été extrêmement content de cette constatation. J'ai trouvé ça merveilleux. Parce que ça montre tellement, même si la mère n'est pas compétente et fait des gaffes, elle donne un amour à l'enfant que personne ne peut remplacer. La nature. Oui. L'intelligence pousse sur la nature pour l'homme. Et le petit enfant a besoin de s'éduquer dans les bras de sa mère. Alors, il m'a dit, à partir de 15 ans, on reprend. Alors, je lui ai dit, dans 10 ans, je reviendrai. Pour voir si, au fond, on pouvait supprimer les complexes entre l'enfant et le père, le petit garçon et le père. Je crois que le meilleur moyen de corriger ça, les premières jalousies, les premières ambitions, c'est très important ça, pour toute la vie, autrement ça reste tout le temps. Alors, vouloir les supprimer en dehors de la famille, je crois une erreur. La famille, un milieu naturel. Et c'est très important, ça. C'est un milieu naturel. Alors, c'est sûr, il y a des exceptions quand le père et la mère ne font plus leur métier. Alors, on les remplace. On les remplace. Et on ne peut jamais les remplacer naturellement. Il y a quelque chose qui est dans la nature. La première éducation, elle est familiale. Ça se retrouve même chez les lions, qui ont le sens de la famille. Au Rwanda, avant la guerre du Rwanda, il y avait la possibilité de voir ça. Concrètement, puisqu'on pouvait aller tout près des lions. Il n'était pas mauvais parce qu'il n'y avait pas de chasse. La chasse était défendue. Alors, on voyait les animaux presque comme au paradis terrestre, vous voyez, poussés normalement. Alors, il faut retenir, je crois, que la durée et le fatiguer au point de départ sont très liés. Donc l'influence du fatiguer sur la durée est très délicate. Parce que enlever l'enfant au foyer et le mettre tout de suite en compétition avec d'autres enfants. En famille, il n'y a pas de compétition. Jusqu'à un certain âge, quand l'enfant grandit et qu'il est à la fin de la famille et qu'il y a les aînés, il y a des compétitions. Mais des compétitions fraternelles. C'est jamais très dangereux, les compétitions fraternelles. Tandis que si on le retire du milieu familial, alors on est en face de passions qui s'éveillent. et les passions qui sont très difficiles à corriger au point de départ. Tant que l'enfant ne peut pas raisonner lui-même et coopérer lui-même avec ceux qui l'éduquent. Or, la coopération est très nécessaire quand il s'agit d'éducateurs étrangers. La coopération avec la mère et le père se font naturellement. Et c'est pour ça qu'on fait retarder l'éducation de l'enfant en le retirant aux parents. Parce que le père et la mère, on y coopère naturellement. Il y a un facteur naturel qui est très fort. À partir de là, la première éducation, on distingue le bien et le mal. Première distinction à faire. Et toute la morale, toute l'éducation morale reposera là-dessus. Le bien et le mal. Faire le bien, éviter le mal. Et on verra qu'il faut éduquer son concupiscible et éduquer son irascible.